Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, désormais entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour, ce soir, nous nous posons une question difficile. Le viol conjugal est-il le tabou ultime des violences faites aux femmes? Car alors que la loi de 2006, modifiée en 2010, reconnaît, judiciairement parlant, la question du viol conjugal, celui-ci est toujours sous-déclaré par les victimes. Quelles sont les raisons historiques ou sociologiques qui expliquent cette situation? Comment chercheurs, médecins, personnels de santé peuvent-ils s'approcher de cette réalité sociale longtemps négligée? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités ce soir, une historienne, un médecin légiste et une juriste qui, tous les trois, ont travaillé sur les rapports de sexe et les violences qui en sont issues, en particulier dans le cadre très spécifique du couple. Patrick Chariot sera avec nous, il est médecin légiste, il a dirigé un livre collectif à paraître dans 3 semaines désormais sur le viol conjugal aux éditions du CNRS. Audrey Larsonville est avec nous, elle est professeure de droit pénal à Paris-Nanterre, elle est co-auteure de La loi pénale et le sexe aux presses universitaires de Nancy et de Les viols dans la chaîne pénale. Et Sylvie Stenberg est également avec nous, elle est historienne, directrice d'études à l'école des études en sciences sociales et vous avez dirigé, Sylvie Stenberg, une histoire des sexualités, un livre collectif paru aux presses universitaires de France, c'était l'année dernière.
Pour moi, le viol, c'est vraiment l'inconnu qui vient, qui vous prend, qui vous laisse pas le choix, dans la rue, dans un parking, dans une cage d'escalier, enfin voilà. Au sein d'un couple, c'est être forcé d'eux, mais j'arrivais pas à l'exprimer, ce viol. Et il n'y a pas de mots là-dessus. Ça faisait partie du quotidien, d'avoir toujours... ça qui quête dans la bouche alors qu'on ne voulait pas.
C'est difficile aussi d'accepter soi-même, de se dire « j'ai été violée ».
Ah oui. Quelle honte.
Un extrait d'Envoyé spécial, c'était en mars 2017, au moment du procès en appel de son ex-compagnon Vanessa, victime de viol conjugal, témoignait donc pour Envoyé spécial et son compagnon était également poursuivi par 2 autres femmes. C'est un témoignage que vous pouvez recueillir souvent. Patrick Chariot, vous êtes médecin légiste, vous avez donc dirigé un livre collectif à paraître d'ici peu de temps sur la question du viol conjugal. Vous vous trouvez confronté justement à cette question, en particulier avec ce terme de honte qui est utilisée par Vanessa dans ce témoignage recueilli par Envoyé spécial.
Oui, en effet, c'est tout à fait représentatif de ce qu'on rencontre quotidiennement. Et la honte et la difficulté de parler de ces situations, elle met mal à l'aise en fait l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'à la fois les professionnels, que ce soit les professionnels du droit, les policiers, les magistrats qui auraient à traiter de ces affaires, mais aussi les professionnels de santé. C'est beaucoup plus simple d'avoir une victime à identifier, d'avoir des empreintes génétiques à faire parler, que dans ce qui est indicible, ce qui ne devrait pas exister, et ce qui ne devrait pas exister, finalement, parfois ça n'existe pas, puisqu'on n'en parle pas, et donc ça n'existe pas, et c'est le viol conjugal.
Audrey Larsonville, je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à Nanterre, et que vous êtes co-auteur en particulier de Les viols dans la chaîne pénale. Cette question du viol conjugal en matière justement de droit pénal, c'est quelque chose qui est arrivé tard dans la perception justement de ce qu'étaient les viols et la spécificité du viol conjugal ?
Oui, c'est arrivé relativement tardivement. La loi sur le viol, elle date de 1980. Et dès 1980...
Monique Pelletier, à l'époque, ministre des droits de la femme, qui l'a mise en place.
Exactement. Et dès 1980, en réalité, la nouvelle définition permettait de s'appliquer au viol conjugal, mais elle a été totalement occultée par la jurisprudence, par la chambre criminelle. Et les premières hypothèses de viol conjugal qui va être, la première hypothèse qui a été reconnue en jurisprudence, c'est 1992. Donc, pour les juges, ça a été quand même assez tardif. Et le législateur ensuite a pris le relais, vous l'avez cité tout à l'heure, par une première loi de 2006 qui a été modifiée en 2010, dans laquelle il s'attache bien à préciser dans la définition du viol que le viol est également possible, quelles que soient les relations entre l'auteur et la victime, y compris si l'auteur et la victime sont unis par les liens du mariage. Donc juridiquement, c'est assez récent, mais aujourd'hui, la loi permettrait, si elle était appliquée, une véritable répression du viol conjugal.
Nous allons discuter.
Je précise également, la loi a même été plus loin, parce qu'aujourd'hui, le viol conjugal est une circonstance aggravante du viol. Hein, le fait d'avoir un viol par un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, c'est une circonstance aggravante.
Sylvie Stenberg, vous êtes historienne et vous avez coordonné donc ce gros livre paru l'année dernière aux presses universitaires de France sur l'histoire des sexualités. Vous êtes historienne de l'époque moderne. Est-ce qu'il faut remonter justement à cette époque moderne, au XVIIe ou XVIIIe siècle, pour pouvoir justement trouver les racines de ce dont on parle, c'est-à-dire cette impossibilité de parler de ce viol conjugal? Est-ce qu'il y a là une vision historique qui nous permettrait de comprendre pourquoi on a eu mis de tant de temps à aborder cette question?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut toujours remonter, disons, pour montrer les racines de ce qui ne va pas. Bon, c'est évident que la notion même de viol conjugal n'existe pas dans le droit ancien. La question de savoir l'époux a le droit d'exiger par la violence, éventuellement le devoir, la dette conjugale, comme on dit en théologie catholique, un rapport ne se pose pratiquement pas dans la loi. Maintenant, la théologie catholique elle-même a quand même travaillé sur cette notion de dette conjugale. D'abord, c'est une dette qui est réciproque, et ensuite, elle a travaillé sur une casuistique qui fait que dans les manuels de confesseurs, même très anciens, le fait de violer sa femme est quand même n'est pas permis. Hein. Donc, il ne faudrait pas penser non plus que l'adoption de dette conjugale ou celle qui prend le relais ensuite quand le droit se sécularise de devoir conjugal est un permis de violer. Hein, absolument pas. Donc, voilà. Moi, je remonterai un peu plus tard. Pour dire que la conscience qu'il existe un viol conjugal, que ça peut exister, n'est pas une conscience récente. Il y a eu, dans les années 1880, à partir des années 1880, toute une série d'écrits de médecins et de romanciers, au premier rang desquels vous pouvez placer Feydeau, vous pouvez placer Maupassant, qui ont beaucoup écrit et beaucoup décrit le viol conjugal sous une forme qui est une forme particulière et qui n'est pas celle qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est la nuit de noces. Hein. Et précisément, cette nuit de noces assimilée à ce que Alexandre Dumas fils appelait viol légal, a été dénoncé à partir des années 1880 et au-delà comme une forme absolument illégitime, au fond, de s'accaparer le corps de son épouse. Donc, encore une fois, dans l'histoire, on peut puiser un certain nombre d'enseignements, hein, mais je pense que cet enseignement-là, c'est-à-dire remonter aux années 1880, par contre, nous permet de comprendre qu'à partir de cette période-là, dans la réalité sociale et surtout dans les discours savants, dans les discours moraux, etc., la complicité sexuelle, la coopération sexuelle, y compris pour éviter d'avoir trop d'enfants, devient une norme et qu'elle est concurrente de la norme patriarcale, disons, de la pleine possession de l'époux sur le corps de son épouse.
Oui, parce que vous êtes juriste, Audrey d'Arsonville, et tout de même, on a souvent mis en cause, par exemple, le code civil, celui de Napoléon, de 1804, comme étant à l'origine, justement, de cette soumission qui était le devoir de la femme de satisfaire, y compris sexuellement, son époux. Mais on s'aperçoit aussi que tout au long du 19e siècle, comme vient de le dire Sylvie Stenberg, eh bien, il y a des nuances, il y a même des juristes, il y a même des magistrats qui vont aller à l'encontre de ce jugement-là et qui vont mettre en place des possibilités pour reconnaître ce qui se passe véritablement au sein d'un couple.
Oui, alors c'est d'autant plus vrai à partir de l'instauration du droit au divorce, puisque dès lors que le divorce devient légal, il est évident que cette idée du devoir conjugal ne peut plus devenir un frein à la répression du viol conjugal, puisque si un des époux ne consent pas aux relations sexuelles, il n'y a évidemment aucune autorisation de forcer un consentement, et il y a une possibilité qui est de faire dissoudre les liens du mariage. Donc ce qui est très compliqué, c'est qu'on a toujours associé, ou en tout cas la difficulté dans la lutte contre le viol conjugal est liée à cette idée qui reste très prégnante qu'il reste un devoir conjugal. Mais à aucun moment le code civil n'autorise à contraindre un consentement qui n'a pas été donné par le conjoint.
Idée d'ailleurs qui est présente aussi dans la tête parfois des victimes que vous croisez, Patrick Chariot, en tant que médecin légiste, puisque elles-mêmes peuvent dire le viol c'est dehors, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, moi je ne savais pas. Je savais pas que ce qui était en train de m'arriver, dit l'une d'entre elles, eh bien c'était un viol, alors que ça se passait au sein de mon propre couple.
Voilà, ça arrive fréquemment quand on reçoit des personnes qui ont choisi ou qui ont pu enfin parler de violence physique, donc extra-génitale, disons, qu'elles subissent, et il faut qu'on leur pose nous-mêmes la question, mais est-ce qu'il y a eu aussi des rapports contraints? Et là, elle n'en parle pas spontanément, et c'est si on va chercher, disons, cette information que on est oui, et sans pour autant qu'elle puisse dénommer ça un viol, même si on leur explique. Et donc après, il y a un travail qui est à faire aussi.
Quand vous parlez de travail, c'est véritablement un travail où il faut aller chercher la parole de la victime, peut-être encore plus loin que pour d'autres cas de viol, par exemple, parce que justement, elle a parfois intégré toutes ces données qui sont des données qui se trimballent dans l'imaginaire collectif. Il faut passer au-delà de cet imaginaire collectif, qui d'ailleurs est le même imaginaire qui fait que policiers, gendarmes ou parfois jurés, lorsque ces questions arrivent devant un tribunal d'assises, eh bien, peuvent dire mais est-ce que c'est vraiment un viol, etc., etc.
Voilà, et ça concourt à cette invisibilité, à la fois l'invisibilité, elle tient au lieu habituel, c'est-à-dire un lieu privé où personne n'accède à part les deux protagonistes. Et puis le fait que dans la majorité des viols, il n'y a pas de signes, de lésions traumatiques visibles, et que donc un viol conjugal qui va être à peu près visible pour la justice, ça sera le viol conjugal accompagné de violences physiques corporelles. Et donc là, ça devient plus facile à traiter pour un policier, pour un magistrat, parce que c'est plus facile à comprendre, y compris aussi pour un professionnel de santé.
Sylvie Steinberg, c'est une question d'ailleurs qui s'est toujours posée, puisqu'au XIXe siècle, on voit des magistrats, des publicistes, des essayistes qui disent « Mais est-ce que la justice va pouvoir se mettre au bord du lit, à l'endroit où elle n'a pas à être, puisque c'est un domaine privé, Sylvie Steinberg ?»
Oui, c'est un domaine privé et c'est surtout, et ça je pense que c'est une notion qu'on a peut-être oubliée depuis les grandes réformes des années 1970 et précisément la réforme du Code civil, c'est que la sexualité conjugale, c'est une sexualité légitime. Elle est légitime, donc à l'intérieur de cette sexualité conjugale, il y a des bornes à ne pas franchir qui sont plutôt... disons du domaine du confesseur, du directeur de conscience, éventuellement de la famille, mais pas forcément du magistrat. Et une des grandes questions juridiques, qui a présidé à la loi de 1980 sur le viol, c'est de rompre avec cette logique. Le viol est lié à une sexualité illégitime. Et en fait,
d'instaurer une nouvelle façon de voir,
ça n'est pas une question de légitimité ou d'illégitimité des relations sexuelles, c'est une question d'atteinte à la personne.
Audrey Larsonville.
Simplement pour revenir sur le caractère invisible du viol conjugal, ce qui est aussi assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, toutes les études le démontrent, les violences sexuelles, elles sont très majoritairement commises par le cercle restreint, c'est-à-dire le cercle familial. Et on reste encore dans cette idée, et ça a démarré le reportage que vous avez évoqué, d'une image d'un viol commis par un inconnu. qui en réalité ne reflète absolument pas la réalité des viols perpétrés en France. Et aujourd'hui, la très grande majorité sont commis par des auteurs qui sont dans le cercle intrafamilial. Donc il y a vraiment un paradoxe dans ce côté invisible du viol qui montre que c'est davantage une construction sociale, sociologique, que véritablement un problème de droit pur, puisque la loi a les outils pour réprimer le viol conjugal.
Alors je ne sais si la parole d'un Premier ministre comme celle d'Édouard Philippe aujourd'hui, donc pour le début de ce Grenelle des violences conjugales, pourrait porter. Il n'a pas évoqué directement dans sa conférence de presse et dans sa discussion de cet après-midi à Matignon cette question du viol conjugal, mais il a tout de même évoqué la place que prenait le couple justement dans cette vision des violences donc faites aux femmes.
Les violences conjugales, ce ne sont pas des disputes de couple où les torts seraient partagés. C'est bien souvent un processus d'emprise sexiste, tellement ancré dans nos mentalités et dans nos pratiques, que certains hommes, certains, se sont habitués à une forme d'impunité. Je ne croyais pas avoir à dire cette phrase un jour, dans une grande démocratie comme la nôtre, au pays des Lumières. Mais certains hommes n'arrivent pas encore à supporter que leur compagne existe autrement que pour eux.
L'empreinte et l'emprise sexiste, c'est quelque chose de très important que de penser en termes d'emprise, justement, Patrick Chariot.
Oui, le processus d'emprise est un élément important dans la compréhension du phénomène des violences conjugales dont le viol fait partie. C'est-à-dire que c'est un élément qui va majorer l'emprise. C'est-à-dire que les violences physiques, les violences, la contrainte économique, et puis pour asseoir une domination dans certaines situations, pas toutes bien sûr, cette emprise inclut la sphère sexuelle.
Oui, parce que dans votre livre, Claire Colder, qui contribue à ce livre sur les violences conjugales qui va sortir d'ici 3 semaines aux éditions du CNRS, dit que le viol conjugal a cette particularité de nier l'autre en tant que sujet et pas simplement comme assouvissement des pulsions, c'est-à-dire que l'idée même que ce sujet appartient complètement à celui qui domine à l'intérieur du couple est quelque chose de très présent. Est-ce que vous êtes d'accord, Audrey Larsonville, avec cette idée ?
Alors, tout à fait. C'est d'ailleurs c'est la logique de la loi de 1980, d'ailleurs, sur le viol et pas uniquement sur le viol conjugal, puisque la logique de l'infraction de viol, ça n'est pas de sanctionner ce qu'on pourrait penser une atteinte à l'intégrité, mais c'est d'abord de sanctionner une atteinte à la liberté sexuelle, c'est-à-dire à la liberté de consentir. Donc, c'est vraiment une atteinte qui est une atteinte au droit de la personnalité avant d'être, ce qui n'exclut pas évidemment, mais avant d'être une atteinte à l'intégrité physique.
Et cette question du consentement, on peut la faire remonter historiquement assez loin pour pouvoir comprendre justement comment elle est mise en place et comment elle permet pendant longtemps à certains hommes de dominer à l'intérieur du couple leur compagne.
Ah, ça, c'est une question, mais c'est une question extrêmement difficile que vous posez. Extrêmement difficile parce que.
Non.
Extrêmement difficile parce qu'il y a une polysémie totale du mot consentement. Mm-hmm. Et consentement, si je remonte assez loin, consentement, ça renvoie à consentement mutuel. Et consentement mutuel, c'est la promesse mutuelle que se font les époux d'avoir vie commune. Hein. Et ce consentement mutuel, il est au départ de leur relation. Ce qui explique qu'il est au départ et il vaut pour la vie. Dans une perspective d'indissolubilité du mariage chrétien, il vaut pour la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à l'arrière-plan, certainement, mais il faudrait le travailler, bien sûr, à l'arrière-plan de cette idée que c'est difficile de qualifier un viol commis à l'intérieur d'un couple de viol, précisément, parce que le consentement, il se fait... pour la vie, il se fait par promesse mutuelle et c'est un sacrement en plus. Hein. Donc, pour toute une partie, disons, pour une grande partie de l'histoire et pour une partie de nos contemporains qui sont engagés dans ce genre de lien, c'est une acception du consentement. Et après, il y a d'autres acceptions du consentement qui coexistent avec celui-là, y compris dans le droit ancien. Donc, le viol, c'est effectivement une violation du consentement de la personne, hein, dans un autre sens. Et puis, il y a des acceptions que je dirais plus libérale et plus subjective du consentement, qui valent pour un acte précis. Bon, c'est un peu le principe de la loi suédoise suivant laquelle on doit absolument consentir à chaque acte sexuel. Voilà.
Donc, à chaque phase de l'acte sexuel.
Et au départ de chaque acte sexuel pour éviter les abus, les viols, etc. Et donc, on navigue entre des acceptions différentes.
De ce mot consentement.
De ce mot, oui.
Et Patrick Chariot.
Et on a même à l'opposé le consentement en matière médicale dont on admet maintenant à peu près unanimement qu'il ne vaut non seulement que pour un type d'acte, mais qu'à un instant donné. C'est-à-dire que le patient peut légitimement retirer son consentement à tout acte, quel que soit le moment, même s'il est sur, s'il va être endormi, s'il est sur la table d'opération.
Et donc, c'est cette polysémie du consentement qui rend cette question complexe. Est-ce que c'est cela aussi, Audrey Larsonville, qui peut expliquer cette sous-déclaration dont je parlais au départ?
Alors, je ne suis pas certaine que ça puisse expliquer en droit la sous-déclaration, puisqu'en fait, le droit n'a connaissance du viol conjugal que quand il a été déclaré.
Bien sûr. Donc,
par contre, il est très clairement au cœur de la difficulté à poursuivre et à condamner le viol conjugal, parce que l'infraction de viol suppose de démontrer le défaut de consentement. Or, dans la relation conjugale, le défaut de consentement va s'avérer plus compliqué à démontrer, et c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, lorsque le viol est accompagné de violences physique, le défaut de consentement est assez facilement établi, mais lorsqu'il est, et c'est la plupart du temps ce qui se passe, lorsqu'il est utilisé par le biais de la contrainte morale, elle est, en termes de preuve, difficile à établir. Et dans un couple, elle l'est encore plus en raison justement de ce postulat initial qui était un consentement qui avait été donné au départ de la relation.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Le temps du débat ce soir entre 18h20 et 19h sur France Culture traite d'une question difficile. Le viol conjugal est-il le tabou ultime des violences faites aux femmes? Quand on lit les témoignages que vous avez recueillis dans cette longue enquête que vous avez commencé en 2008, je crois, à Bondy, où vous êtes en tant que médecin légiste, Patrick Chariot, et qui continue encore aujourd'hui, quand on lit ces témoignages de femmes qui sont parfois surprises elles-mêmes de faire ce pas et d'avouer qu'elles ont subi un viol conjugal, on est très écœuré par ce qui se passe, parce qu'on voit effectivement la façon dont l'emprise dont on parlait tout à l'heure se met en place à l'intérieur d'un couple et dont il est si difficile de sortir parce que les voisins, parce que la famille, parce que le candidat-on, parce qu'on a justement donné son consentement au tout départ à cette relation il y a déjà très longtemps et on n'arrive pas à en sortir, Patrick Chariot.
Oui, en effet. Donc, vous pourriez continuer la liste parce que l'entourage, parce que les voisins, parce que la police, parce que le médecin ou le psychologue à qui on en parlera, est-ce qu'il va comprendre? On comprend déjà pas forcément soi-même ce qui se passe, à part qu'on est perdu. Et donc, en parler à autrui, on a honte soi-même, c'est encore plus difficile que dans une situation qu'on peut appeler de bonne victime, qui est celle qui va avoir des choses à montrer, des blessures, des traces d'utilisation d'une arme ou des circonstances particulières comme celles dont on parlait, qui sont minoritaires, qui est celle du viol ou de l'agression par un inconnu. Ça, c'est bien plus simple.
Et puis Audrey Larsonville, il y a cette idée au bout du compte que tout cela va le plus souvent en correctionnel, assez rarement au pénal. Qu'est-ce qui explique ça justement?
Alors, le correctionnel, c'est le pénal, hein, quand même.
Oui, oui, mais...
Mais alors, les explications, elles sont multiples. Nous, dans l'étude que nous avons menée sur Lille et Nantes, ce que l'on a pu constater en réalité, c'est que très souvent, lorsqu'il est dénoncé, ce qui déjà est assez rare, lorsqu'il est dénoncé, le viol conjugal s'inscrit dans un continuum de violences conjugales. C'est-à-dire que très souvent, les victimes déposent plainte pour des violences conjugales. Et comme ça a été dit, au fur et à mesure, les policiers vont découvrir qu'il y a aussi des actes de viol. Et la plupart du temps, la justice va tout traiter sous la qualification de violence conjugale et le viol disparaît en réalité sous cette qualification. Alors, ce qui est très problématique parce que, sauf violence extrêmement violente ayant entraîné des préjudices très très lourds pour les victimes, la plupart du temps les violences ce sont des délits donc qui relèvent du tribunal correctionnel alors que le viol est un crime et relève normalement de la cour d'assises. Donc en dissimulant le viol parmi toutes les violences et en le faisant passer comme une violence, enfin en tout cas comme une autre violence parmi les violences, eh bien ça permet tout simplement de le correctionnaliser et ça ne lui donne pas son véritable seuil de gravité qui est dans la loi un crime et qui n'est pas un délit. Donc c'est souvent le processus que nous on a pu observer dans les dossiers.
Et quand on mène un travail de recherche, comme vous le faites avec les chercheurs et chercheuses qui sont dans ce livre sur le viol conjugal, Patrick Chariot, un travail de recherche nécessite justement de distinguer, de comprendre comment ça se passe à l'intérieur d'un couple par exemple, encore formé d'un ex-conjoint qui a quitté le domicile conjugal mais qui revient parfois pour violer son ex-compagne entre concubins et non pas entre hommes et femmes mariés, etc., etc. Tout cela, ça doit être difficile étant donné le peu de représentation, le peu de nombre de gens qui déclarent, de finir par faire des catégorisations, en l'occurrence, que vous faites dans le livre collectif que vous allez diriger, Patrick Chariot.
En fait, le point de départ était pratiquement judiciaire et juridique, le point de départ de cette étude, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait, au sens de la loi, un viol aggravé, le viol conjugal, au sens de la pratique judiciaire, un viol qui ressemblait à un viol atténué. Et donc, le point de départ de l'étude, ça a été de faire la part des choses. Est-ce qu'on aurait des raisons médicales ou psychologiques ou en termes de réaction sociale? Est-ce qu'on aurait des raisons de considérer que le viol conjugal est un viol atténué? Et ce qu'on a trouvé dans cette étude, qui se confirme là au fil des années très très largement, c'est qu'on a aucun signe de gravité moindre dans les viols conjugaux que dans les autres viols. Il y a plus souvent des violences physiques extragénitales, des violences répétées, des conséquences psychologiques extrêmement graves, des réactions sociales perçues très négativement. Et donc, on n'a aucune raison médicale, psychologique ou sociale, en termes de réactions sociales perçues, de considérer que le viol conjugal est un viol atténué. Et en revanche, devrait bien être considéré comme un viol aggravé.
Et pourtant, il y a eu des campagnes qui ont été lancées en 2011. Par exemple, la campagne du collectif des féministes contre le viol avait lancé une première campagne télévisée sur ce viol conjugal. On écoute.
Une femme, elle doit répondre à toutes les envies de son mari. C'est ça le devoir conjugal. Et puis elle peut rien dire, avec les enfants qui dorment à côté. Ou elle irait se plaindre. J'ai été violée par mon mari. T'imagines ? Une femme sans son mari, c'est rien. Et le sexe, c'est humain. Alors c'est où il veut ? Quand il veut.
Ne laissez plus votre conjoint s'exprimer à votre place. Le viol conjugal est un crime. 0800 05 95 95. Nous pouvons vous aider.
Audrey Larsonville, est-ce que ce genre de campagne, comme d'ailleurs la présence dans des films de grande diffusion, des séries, dans Mad Men par exemple, on assiste, donc cette grande série américaine qui a été diffusée il y a quelques temps, à un viol conjugal dans un bureau d'une des personnes qui est une des héroïnes de Mad Men. On a vu ça aussi pour Plus belle la vie, le feuilleton de France 3 où cette question a été posée. Est-ce que ça peut servir justement à faire émerger la parole de la part de personnes qui ne pensaient pas justement avoir vécu cette question du viol conjugal, Audrey?
Oui, alors évidemment, ces campagnes de sensibilisation ou la présence dans des séries connues, ça sert évidemment à faire passer un message pour les victimes, c'est-à-dire à donner des mots aux victimes sur la réalité de ce qui s'est produit. Je pense que la difficulté, elle est après les victimes qui arrivent à mettre des mots sur ce qui s'est passé et qui franchissent les pas d'un commissariat, c'est ce qui se passe après qui est problématique. Parce que si on fait une campagne de sensibilisation, mais que derrière l'accueil ne suit pas, l'accueil judiciaire en tout cas ne suit pas, ou que le parcours devient un véritable parcours de combattant pour un résultat qui est souvent très déceptif, qui est une correction. Je trouve que c'est un peu vain. Enfin, c'est-à-dire que donner l'espoir aux victimes que les pouvoirs publics prennent en considération le viol conjugal quand on voit la réalité judiciaire. Nous, dans l'étude qu'on a menée, alors ça n'a pas la prétention d'être exhaustif puisque c'était sur une année de juridiction, on a aux assises zéro viol conjugal. Il n'y en a pas un seul qui est allé jusqu'aux assises. Ils sont tous passés en correctionnel. Donc il y a un vrai problème effectivement d'appréhension par la justice, par le corps judiciaire dans son ensemble, de la réalité du viol conjugal.
Sylvie Steinberg, vous êtes historienne et en particulier historienne de ce qu'on appelle le genre. Cette question, ce nouvel outil pour l'historien, pour le sociologue, pour l'anthropologue qui est le genre, justement, cette nouvelle façon de voir les rapports de sexe dans les sociétés, est-ce que cela permettrait justement de renouveler le regard porté sur ce viol conjugal dont on parle depuis le début de cette émission ?
Moi, j'ai l'impression que ça l'a déjà un petit peu renouvelé dans le sens où, sans avoir travaillé sur ces questions, mais dans l'ouvrage qui va paraître, là, il y a en particulier l'intervention d'Elisa Herman, qui est sociologue et qui a travaillé sur des associations qui se chargent des victimes. Et elle rappelle au début de son article que les associations ont eu, des associations qui sont très majoritairement d'inspiration féministe, ont eu des trajectoires différentes, en fait. En gros, il y a les associations qui se sont spécialisées dans le viol, particulièrement après le grand procès d'Aix-en-Provence en 1978, et puis des associations qui se sont spécialisées dans la question des violences qu'on appelait domestiques, ou la thématique qu'on disait des femmes battues, il n'y a pas si longtemps, et qu'au fond, de prendre les choses comme un continuum.
C'est-à-dire de ne pas séparer.
De ne pas séparer.
Cette question de la violence domestique.
De ne pas forcément systématiquement caractériser violence psychologique, les coups, et puis la sexualité comme étant trois choses totalement disjointes, qui n'ont pas les mêmes explications, qui n'ont pas les mêmes causes, mais de les faire entrer dans des explications, alors après, qui sont en débat, c'est pas, mais dans des explications, et en particulier en termes de pouvoir sur l'individu, sur la personne, et de domination, je pense que oui, effectivement, ça contribue déjà, d'une certaine façon, à faire rentrer le viol conjugal dans la sphère de ces violences faites aux femmes en général.
Dans votre livre collectif que vous avez dirigé, Patrick Chariot, qui paraîtra d'ici peu aux éditions du CNRS, il y a un article spécifique sur la question des violences à l'intérieur du couple homosexuel. Alors c'est encore plus difficile à percevoir, dites-vous, parce que le nombre de cas est encore moindre que de cas déclarés est encore moindre que celui du viol conjugal hétérosexuel, mais néanmoins ça vaut la peine de se pencher sur ce cas spécifique, dites-vous.
Oui, l'intérêt aussi de consacrer un ouvrage à cette question, c'est d'éclairer ce que personne ne souhaite voir, donc de distinguer les violences sexuelles dans le couple homosexuel, de distinguer les violences par ex-conjoint des violences par conjoint actuel, ça permet de, il nous semble que ça permet de sensibiliser l'ensemble des acteurs aux formes que peut prendre ce viol conjugal, et j'irai plus loin que l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'il y a aussi une sensibilisation, certes, des victimes potentielles ou auteurs potentiels, mais aussi des professionnels de santé, c'est-à-dire que quand on intervient,
je rappelle que vous êtes vous-même médecin légiste et que vous travaillez avec
à la fac de médecine de Bobigny, quand on intervient devant des étudiants en médecine et qu'on leur parle du viol conjugal, leur première réaction, c'est aussi de dire ah bon, mais ça existe ça, et donc ce sont les futurs intervenants de première ligne auxquels auront affaire les personnes victimes de ces actes.
Et donc, parmi les professionnels de la justice, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a la même réaction quand on enseigne à des jeunes juristes? Ah bon, ça existe ça?
Oui, c'est exactement la même réaction.
Ah oui, c'est vrai.
Entre le public étudiant, juriste, ce qui révèle très clairement qu'il y a un besoin d'information et de connaissances qui est extrêmement important, et notamment alors pour la formation des médecins et pour la formation nous à la fac de droit, on forme quand même de futurs magistrats, policiers, avocats, et donc la formation est absolument indispensable sur ces questions-là.
Et qu'est-ce que vous leur dites justement pour leur faire prendre conscience que cette question est une question importante, qu'il faut la rehausser dans leur propre formation, parce qu'ils auront affaire justement à de plus en plus de déclarations, à de plus en plus de femmes et parfois d'hommes qui viendront devant eux pour pouvoir parler de ces questions-là.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que de façon plus générale, sur toutes les violences sexuelles, la problématique aujourd'hui, elle est que c'est devenu un contentieux de masse. C'est-à-dire que devant les juridictions pénales, c'est aujourd'hui un des contentieux les plus importants. Donc, quelle que soit la sphère professionnelle dans le monde judiciaire dans laquelle ils se trouveront, ils seront confrontés massivement à cette question. Donc, il faut impérativement se former à ces questions-là.
Et ces questions d'évolution du droit, puisqu'on a vu que ce droit avait été assez tardif à se mettre en place, que ces législations datent des années 2000, quand on regarde internationalement ce qui se passe au Rayersonville. Est-ce qu'on peut comparer à d'autres pays qui auraient été plus vite pour mettre en place ces législations, qui auraient d'une certaine façon quelque chose à nous dire de neuf sur ces questions-là, Audrey Larsonville?
Alors, en tout cas, sur les violences sexuelles, et pas uniquement sur la sphère conjugale, mais sur les violences sexuelles, on a beaucoup à apprendre de certains pays, et notamment, par exemple, du Canada, qui a une législation qui est très certainement beaucoup plus en avance que la nôtre.
Qu'est-ce que ça veut dire, une législation plus en avance?
C'est-à-dire que, notamment, eux, ils n'ont pas du tout le même réflexe sur le consentement, qui est, nous, vraiment le problème principal pour la justice, c'est cette question du consentement. Et plutôt du défaut de consentement qui est extrêmement compliqué parce qu'on demande aux victimes de prouver qu'elles n'étaient pas consentantes, ce qui est très souvent absolument impossible, alors que le Canada a une approche qui est tout à fait différente puisque l'approche est celle que c'est l'auteur qui doit prouver que la victime était consentante. Donc ça change totalement la logique, la démarche est totalement différente, mais je suppose que c'est aussi lié à une évolution de la société canadienne qui n'est pas la même que la nôtre et qui est beaucoup plus sensibilisée notamment aux droits des femmes depuis plus longtemps et plus, je pense, plus avancé que nous sur ces questions-là.
Et puis, on sait par exemple que le date rape, comme on dit aux États-Unis, donc ce viol qui intervient au moment d'une rencontre, d'un rendez-vous, etc., etc., par exemple, a été très rapidement mis en œuvre dès les années 1970. C'est ce que dit, en l'occurrence, dans votre livre, je crois, c'est Alice Debauche qui en parle, en comparant justement le cas français au cas américain. Évidemment, ça n'est pas la même chose en France. Patrick Chariot.
Oui, on souffre de l'absence d'une expression comme le date rape en français parce que elle est très parlante et elle met en avant justement.
Donc le date, c'est le rendez-vous.
Oui,
le rendez-vous
souvent. Elle met en avant la grande place du viol par une personne connue. Et donc ça met de côté les clichés du violeur inconnu dans un parking. Donc ça n'est pas directement le viol conjugal, mais on s'en approche.
Sylvie Stenberg, sur ces questions, la recherche avance, on l'a compris, en termes juridiques, en termes médicaux aussi. Est-ce que, en histoire, par exemple, il y a des travaux qui sont en train d'être mis en œuvre dans cette perspective d'histoire du genre, en particulier pour pouvoir approcher ces questions-là, comme ceux de Victoria Vano, qui d'ailleurs intervient dans le livre dirigé par Patrick Chariot, qui a écrit La paix des ménages. Est-ce qu'il y a d'autres travaux dans ce domaine-là pour pouvoir réfléchir à cette question du consentement, du couple et du viol qui peut intervenir au sein du couple?
Bon, alors récemment, je me suis intéressée à ces questions. Je me suis dit, il n'y a rien qui a été fait. Et en fait, en faisant une bibliographie,
il
y a quand même beaucoup de choses. Après, sur la question du viol conjugal, le grand problème qui se pose aux historiens, c'est de jouer entre une définition analytique de la violence, c'est-à-dire la définition vernaculaire et la définition que nous avons, qui inclut en particulier la question des conséquences physiques, psychiques, etc., sur les personnes, qui est une définition récente, et puis le fait que dans le passé, ces définitions n'existaient pas, et l'incrimination elle-même n'existait pas. Hein. Et donc, on peut travailler sur des abus, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que un certain nombre d'abus étaient réprimés ou au moins étaient condamnés, très difficilement quand même sur des vraies incriminations et des procès en particulier.
Merci à tous les trois. Donc, merci à vous, Audrey Larsonville, d'être venue avec nous pour nous parler en tant que juriste de ces questions de viol conjugal. Je rappelle que votre livre, que vous avez dirigé, Patrick Chariot, s'intitule Le viol conjugal, avec une préface de l'excellent historien Georges Vigarello. C'est au CNRS Édition, qui était d'ailleurs un historien du viol. Il a écrit une histoire du viol. Et puis, que votre histoire des sexualités, dirigée par vous, Sylvie Stenberg, est parue très récemment avec Christine Barr, Sandra Boringer, Gabriel Houbre et Didier Lette aux Presses universitaires de France. Merci à tous les trois. C'était le temps du débat. Remerciements à toute notre équipe, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Pascal Baudin, à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Il est 18h59 et on vous retrouve, Arnaud Laporte.
En effet, Laurentin, on me retrouvera encore plus dans 4 minutes. On parlera de musique dans la dispute. Il doit être troublé par votre débat.
Ouais.
Pour dire que c'est un ton enjoué, c'est un peu difficile. Voilà. Mais bon, on va passer de la musique, on va s'énerver sur des sorties de disques, ça va être très... du métal, du jazz, du punk, donc des choses qui vont nous faire beaucoup de bien. Ce qui ne m'empêche pas de vous demander, mon cher Emmanuel, quel sera le sujet du temps du débat demain?
Eh bien, à l'ordre du jour demain, les forces de l'ordre résistent-elles à un changement de stratégie? On sait que depuis peu de temps, le président de la République a évoqué la question du maintien de l'ordre, en particulier pendant la question des gilets jaunes, et qu'il a commencé à admettre que peut-être il y a eu quelques débordements de la part des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie en cours? C'est ce que nous verrons demain avec des spécialistes, mais également général de gendarmerie et également des responsables syndicaux des CRS ou des responsables des CRS qui viendront nous parler justement de la méthode aujourd'hui mise en œuvre dans le maintien de l'ordre et de ses évolutions futures.
J'ai à peine le temps de relever que vous avez dit des spécialistes, mais aussi un général de gendarmerie. Vous verrez ça demain avec lui.
Évidemment.
On écoute France Culture, il est 19h, l'heure des titres de l'actualité par Aurélie Kiefer.